Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 18 mars 1871, l'apparition d'un mouvement qui va marquer l'histoire de France, la Commune de Paris. Le 10 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Très vite, les défaites se succèdent. L'empereur est capturé à Sedan le 2 septembre. La Troisième République est proclamée à Paris le 4 septembre. Après une résistance héroïque, le gouvernement de la Défense nationale signe l'armistice le 28 janvier 1871. Refusé par le peuple parisien, il accroît la tension entre le gouvernement officiel, dirigé par Adolphe Thiers, et les forces révolutionnaires qui, le 18 mars, constituent un gouvernement insurrectionnel, la Commune de Paris. Après le transfert de l'Assemblée nationale à Versailles, le 10 mars, Thiers décide de récupérer les pièces d'artillerie regroupées à Montmartre. Il souhaite également occuper militairement la capitale. C'est donc par une histoire de canons que débute la Commune. En effet, la garde nationale possède 227 canons, dont 200 ont été fondus durant le siège de Paris par les troupes prussiennes grâce à des souscriptions privées. Quand les Allemands occupent partiellement la capitale durant 48 heures, au début du mois de février 1871, les Parisiens s'empressent de les mettre en lieu sûr, hors de la zone d'occupation, au sommet de la butte Montmartre. Les canons sont désormais sous la garde du peuple, organisés en fédération. Le 8 mars, les troupes régulières tentent de prendre le parc d'artillerie détenu par la garde nationale. L'opération échoue. Le comité central de la fédération lance à l'armée gouvernementale ce manifeste révolutionnaire. Soldats, enfants du peuple, les hommes qui ont organisé la défaite, démembré la France, livré notre or, veulent échapper à la responsabilité qu'ils ont assumée en suscitant la guerre civile. Le peuple de Paris veut conserver ses armes, choisir lui-même ses chefs et les révoquer quand il n'a plus confiance en eux. Plus d'armée permanente, mais la nation tout entière armée. Le 15 mars, Thiers s'installe à Paris. Il ne peut tolérer semblable appel à la désertion. Le conflit entre les deux pouvoirs, celui des fédérés et celui du gouvernement légitime de la France, est inévitable. Au matin du 18 mars, les murs de la capitale sont couverts d'une affiche gouvernementale proclamant « Habitants de Paris, depuis quelque temps des hommes mal intentionnés, sous prétexte de résister aux Prussiens qui ne sont plus dans nos murs, se sont constitués maîtres d'une partie de la ville. Les canons dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux. Et pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison, le gouvernement compte sur votre concours. Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister. Parisiens, vous nous approuverez de recourir à la force, car il faut à tout prix que l'ordre, condition de votre bien-être, renaissent entier, immédiat, inaltérable. Pour récupérer les précieux canons, Thiers recourt à la force armée. Les Montmartrois sont réveillés à l'aube du 18 mars par le pas cadencé des fantassins de l'infanterie de ligne qui prennent leur position. Bientôt, toute la colline est tenue par la troupe au centre du dispositif. Militaire, le général Lecomte, avec le 18e bataillon de chasseurs et le 88e bataillon de marche, parvient au sommet de la butte Montmartre. Il bouscule les fédérés de garde et pénètre dans le parc d'artillerie. Là, il attend les attelages nécessaires à l'enlèvement des pièces qui tarde près de 4 heures. Les ménagères et les filles des hôtels meublés apparaissent dans les rues. Elles s'infiltrent dans les rangs de l'armée, proposant aux soldats de boire un verre avec elles. Le tocsin se fait entendre, les unités de la garde nationale se rassemblent, place Saint-Pierre apparaît un premier groupe de fédérés, accompagné de quelques soldats du 88e régiment d'infanterie de ligne qui ont déserté. Le général Lecomte fait croiser les baïonnettes, les gardes nationaux avancent, menaçant, brandissant leurs fusils chassepot. Le feu est ordonné. La troupe refuse de tirer sur le peuple. La foule se précipite, embrasse les soldats et les entraîne vers les comptoirs des marchands de vin qui ouvrent leurs portes. Le général Lecomte est désarçonné et traîné vers l'auberge du Château Rouge, un ancien bal d'Antoine et à Ménilmontant. Ils occupent le palais du Luxembourg où l'infanterie de ligne fraternise avec la population parisienne et marche sur l'hôtel de ville. Au ministère des Affaires étrangères, Thiers s'affole. Il replie le gouvernement à Versailles. La commune est proclamée. Le peuple de Paris se rassemble en liesse sur le parvis de l'hôtel de ville. Il crie sa joie, chante, danse et s'embrasse. Il se réjouit d'apprendre la création de communes insurrectionnelles à Lyon, Marseille, Narbonne, Toulon et Limoges. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, trois livres. C'est Francis Cabrel qui nous accompagne en chanson avec son dernier album, À l'aube revenant. Nous écoutons le titre phare, Te ressembler.
T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. Toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village, le soir de jardin à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent, ça je le sais bien, j'étais là. Ça en prenait du courage pour se lever à ces heures-là, bien avant le jour, et partir dans le pâle éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai vécu comme on s'amuse, t'avais les pieds sur terre. Et j'étais tout le contraire. On s'est pas dit je t'aime, on s'est pas serré dans les bras. Concernant l'amour, il fallait tout deviner nous-mêmes. On nous laissait grandir comme ça. Et tu vois, on a grandi quand même. Je le sais bien, j'étais là. D'avoir eu tant de chance, quelquefois je me sens fautif. Je regarde autour, ma maison est immense et mon jardin décoratif. Et je sais que depuis ton lointain au-delà, t'as gardé un œil sur moi. j'aurais voulu te ressembler, je le jure. Mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Et un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai vécu comme on s'amuse. T'avais les pieds sur terre, et j'étais tout le contraire. Jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres. Ce sont deux bandes dessinées que je vais vous présenter, deux bandes dessinées bien sûr consacrées à l'histoire. Commençons par le manifeste des 343, histoire d'un combat. C'est paru aux éditions Marabule le 5 avril 2021. Sera célébré le cinquantenaire du manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir et signé par 343 femmes qui déclarent avoir avorté. Les actrices Catherine Deneuve, Françoise Fabian, Bernadette Lafont, Jeanne Moreau et Delphine Seyrig, les romancières Marguerite Duras et Françoise Sagan, Yvette Roudy, future ministre des Droits des Femmes, l'avocate Gisèle Halimi, la chanteuse Brigitte Fontaine, la cinéaste Agnès Varda sont parmi les signataires. La parole se libère. Pourtant, Le Monde, journal de référence, refuse de publier le manifeste. C'est finalement le Nouvel Observateur qui lui ouvre ses pages grâce à la journaliste Nicole Muchnik. Ce texte connaît un fort retentissement. Charlie Hebdo parle des 343 salopes. Au début des années 1970, l'interruption volontaire de grossesse est un sujet sensible et urgent. Chaque année, 800 000 avortements clandestins sont pratiqués en France. En 1969, le docteur Pierre Simon fonde l'Association nationale pour l'étude de l'avortement. Maître Anne-Marie Dourlan-Rollier, avocate du mouvement français pour le planning familial, rappelle que la société française ne peut plus ignorer l'ampleur des drames vécus par les femmes qui avortent. Claude Perret, un médecin député gaulliste de la Vienne, dépose une proposition de loi pour reconnaître l'avortement thérapeutique. Elle est retirée le 29 avril 1971 suite à la publication du manifeste. À la même époque se constitue le mouvement de libération des femmes, le MLF. Il porte l'expression du féminisme en déposant le 26 août 1970 une gerbe à la femme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe de la place de l'Étoile à Paris. Le 20 novembre, ces militantes perturbent les états généraux de la femme organisés par l'hebdomadaire Elle à la Mutualité. Adeline Lafitte, Hélène Strog et Hervé Dufat racontent en bande dessinée cette histoire qui aboutira le 17 janvier 1975 au vote de la loi Simone Veil. Lucas, est-ce que je peux recommencer la dernière phrase ? C'est possible ?
D'accord. Ouais,
okay. Toi, au montage, ça ne pose pas de problème ?
Non, non.
Bon, alors je reprends la dernière phrase, j'ai fait une petite erreur. D'accord. Adeline Lafitte, Hélène Strag et Hervé Dufaux racontent en bande dessinée cette histoire qui aboutira le 17 janvier 1975 au vote de la loi Simone Veil. Le manifeste des 343, Histoire d'un combat, c'est publié aux éditions Marabule. Kilomètre zéro, une épopée ferroviaire de Stéphane Piatezek et Florent Bossard, c'est publié aux éditions Grand Angle. Cette bande dessinée débute à Mulhouse le 19 mai 1836. Elle s'ouvre sur le visage de Salomé, la fille de Nicolas Koechlin, l'un des principaux industriels de la cité du Bolvert, qui est alors dominé par un patronat visionnaire de confession protestante, qui transforme l'urbanisme par la création du nouveau quartier dont l'emblème est le bâtiment de la société industrielle. Préoccupée par la question sociale, la jeune femme dénonce le travail des enfants, en particulier dans les filatures. Elle signe un article retentissant dans l'Industriel alsacien, hebdomadaire fondé en 1835 par Pierre Barré. Le titre est éloquent. Le travail des enfants assure nos profits industriels et la survie des familles ouvrières. Cela peut-il durer ? Mulhouse est alors une cité industrielle en plein essor. Ses productions textiles sont réputées dans toute l'Europe. Les auteurs nous invitent à découvrir les prémices de l'épopée ferroviaire en Alsace qui est portée par Nicolas Koechlin. Âgé de 58 ans, franc-maçon, il engage une fortune dans ce projet qui ouvre à la modernité. Le 19 juillet 1837, il fonde la compagnie du chemin de fer de Mulhouse à Tannes, dirigée par l'ingénieur Nicolas Cadia. La ligne est inaugurée le 1er septembre 1839. C'est la première en Alsace et la troisième en France. Déjà pointe à l'horizon la desserte Strasbourg-Mulhouse-Bâle qui sera inaugurée le 22 août 1841 avec ses 140 km. C'est la plus longue ligne française de l'époque. Merci à Lucas qui a réalisé cette émission Historama et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec Francis Cabrel, son dernier album, À l'aube revenant. Nous écoutons Parlons-nous.
Normal qu'au début ça puisse surprendre. On part de tellement loin qu'il faut tout reprendre. Ça peut même pas mal bousculer du monde. Il n'est même pas certain que l'on nous réponde. Tant pis, parlons-nous. Parlons-nous rien qu'un mot. Ça va, c'est la forme. Un sourire à moitié, c'est déjà énorme. Même si ça ne va pas plus loin qu'un signe de tête. Ça dit, tu es là, je t'ai vu. Je te respecte alors, parlons-nous. Ça peut presque avoir l'air de choses insipides. Allez-y, après vous, d'un geste timide. Un salut d'une main sortie de la poche. On va pas, pour autant, non, devenir des proches. Alors, parlons-nous. Parlons-nous. Commencez doucement, bientôt les vacances. Rentrez-vous vers chez vous. Restez-vous en France, pourvu que le beau temps veuille vous sourire. Parlons jusqu'à trouver quelque chose à dire, mais surtout parlons-nous. Dites n'importe quoi, dès la palissade.
Tu es plutôt TTC ou tu es plutôt le stade?
Et le petit dernier, ça marche à l'école?
C'est joli le dessin, là, là, sur votre épaule.
Vous avez vu ça hier soir sur la une?
J'ai pas pu fermer l'œil, c'est la pleine lune.
Il paraît que demain la chaleur remonte.
J'ai perdu 4 points sans m'en rendre compte.
Parlons-nous. Allez-y, perdez-vous dans des palivernes. Des mots qui sonnent creux comme des cavernes. On bégaye, on s'en fout puisqu'on en rigole. Voyez comment on s'éloigne, voyez comment on s'isole. Alors parlons-nous. Moi aussi par moments je veux voir personne. J'ai des sentiments pour mon téléphone. Je vis juste à côté de gens qui s'inquiètent. Je devrais plus souvent relever la tête. Alors parlons-nous. Au début, ça puisse surprendre.
We'll be right back.